Donc, Erwan, tu es professeur des écoles, tu es aujourd'hui menacé de licenciement après une procédure de insuffisance professionnelle. Il y a une conférence de presse là aujourd'hui qui était organisée devant l'école des convalescents où tu es enseignant à Belzunce. On a appris lors de cette conférence de presse que tu faisais partie de différents mouvements de protestation au sein de l'éducation nationale et que tu refusais beaucoup de dispositifs qui sont mis en œuvre au sein de l'éducation nationale. Est-ce que tu peux nous rappeler tout ce que tu refuses en fait?
Oui, ça fait une longue liste effectivement. Mais dans le mouvement des désobéisseurs qui a été initié par un courrier de Alain Refallo au mois de, je sais plus, septembre ou octobre il me semble, il y a un certain nombre de choses qui étaient en refus. Donc on est rentré dans le refus des programmes qui étaient les nouveaux programmes de 2008. Là. On a refusé la mise en place de l'aide personnalisée qui était en fait une manière de supprimer les réseaux d'aide spécialisés. Et on a dit qu'on mettrait autre chose en place que cette aide personnalisée pour venir en aide aux gamins. Le cas des évaluations nationales aussi, CM2, CE1, on s'y est opposé. Il se trouve que moi j'ai des enfants en CM2 aussi, donc j'ai refusé de les faire passer dans ce cadre-là. Ce n'est pas un refus des évaluations en soi, c'est un refus du cadre dans lequel on nous les met. Dans la même logique, refusant les programmes, refusant tout ça, je suis aussi dans une demande de réorganisation de l'inspection, du rôle de l'inspection qui me semble antidémocratique actuellement, ainsi que les commissions disciplinaires qui existent, qui ont des rôles, une manière de fonctionner dans l'éducation nationale qui me semble aberrante. Donc j'ai refusé l'inspection. Comme un tas d'autres aussi en France. Ça, c'est un petit peu moins porté par le mouvement des désobéisseurs, mais il y a tout un mouvement de refuseux depuis les années 70. Et encore ici, sur place, en 95, le SGEN CFDT portait cette revendication.
Refuses de renseigner bas élèves?
Je refuse de renseigner. Alors moi, j'ai pas accès directement, mais je le dénonce. Je pousse à l'intérieur du conseil d'école à ce qu'il y ait des motions contre bas élèves. J'y ai pas accès parce que c'est la directrice qui accède directement à bas élèves. Mais en tant que parent, j'ai participé au collectif Stop Fichage. On est allé voir l'IA plusieurs fois toute l'année dernière pour bloquer des formations. Et qu'est-ce que j'oublie, je sais plus.
Il y a eu aussi une histoire autour d'une classe de neige il y a deux ans, je crois.
Alors ça, la classe de neige, elle avait été refusée. Les propos...
Là, pas par toi, mais par l'inspection.
Par l'inspection, oui. Sur le motif que l'inspecteur ne pouvait pas engager sa responsabilité pédagogique, étant donné qu'il ne m'avait pas vu en classe, hein, puisque j'avais fait un refus d'inspection. Donc il venait clairement remettre en question le refus d'inspection pour empêcher la classe de neige de partir. Bon, il se trouve que des parents l'ont pas entendu comme ça, n'ayant pas de réponse, sont venus demander des comptes en restant à l'école. Et là, l'inspection académique dérape en la personne de Monsieur Yaïch qui crée un incident qui coûte ensuite un procès aux parents qui ont pris chacun, ils étaient trois, chacun 600 euros d'amende et 400 euros pour l'un d'entre eux pour outrage à propos de clowns et acrobates. Alors que les violences, il y avait une plainte pour violence sur l'inspecteur d'académie adjoint et une plainte de l'inspecteur contre un apparence, ça n'a pas été retenu ça comme par hasard. Donc voilà, il y a cette histoire de classe de neige. Moi j'ai été suspendu pendant un mois et demi, remis sur un poste mais sous pression encore. Et puis bon, après, moi j'ai une vie familiale aussi, donc je suis parti en congé parental pendant un an et demi. Donc je viens juste de reprendre mon poste au mois de septembre. Et mes positions ne changent pas. Sur le plan pédagogique, je pense qu'il y a d'autres possibilités de fonctionner. Et donc au niveau syndical, on défend toutes ces... C'est une association entre les démarches pédagogiques, les démarches syndicales, qui amènent à s'opposer dans ce cadre-là. Bon. On tombe dans un contexte où clairement, je pense que l'inspecteur d'académie m'a personnellement dans le collimateur suite à tout ce qui s'est passé. J'avais dénoncé sa démarche quand même il y a 3-4 ans maintenant, avec une dénonciation de dysfonctionnement, à mon avis, de l'inspection, qui imposait la mise en poste d'une personne issue de liste complémentaire. Donc c'est des jeunes collègues qui n'ont pas validé le concours, mais qu'on repêche, et ils voulaient le mettre sur une classe spécialisée. Et les collègues de l'école où on était, à la paix justement, on était 5 là, à dénoncer cette situation, à écrire, et on s'est fait taper sur les doigts par Monsieur Yaïch à nouveau, en ordonnant que le collègue y aille. Or c'est aberrant d'un point de vue professionnel, on savait que c'est compliqué d'aller sur ces classes-là, et effectivement ça n'a pas loupé, le collègue s'est mis en arrêt, enfin ça s'est pas bien passé, alors qu'il y avait déjà un collègue qui est expérimenté, qui voulait bien rester dessus. Donc c'est ce genre de choses qui déclenche un petit peu tous les griefs, parce que c'est aussi signaler à l'inspection des dysfonctionnements de leur part. Donc je pense qu'ils m'en veulent personnellement. S'ajoute à ça tout le mouvement des désobéisseurs. Donc d'une pierre deux coups, s'ils pouvaient taper fortement et faire peur à tout le monde. Comme le disait le collègue de l'UDAS, il continue aussi dans l'Isère, alors que sur Jean-Yves Le Gall, directeur des obéisseurs, refuse en bas élèves, ils l'ont destitué de ses fonctions. Les directeurs continuent et réaffirment qu'ils refuseront. Je pense que les collègues ici réaffirmeront aussi de la même manière qu'ils continuent à désobéir.
Est-ce que tu peux donner les raisons de tous ces refus ?
Alors on va le prendre dans le sens, les évaluations nationales. On nous dit que c'est uniquement dans des buts statistiques et de pilotage, de suivi des élèves. Nous avons tous les enseignants ont des procédures d'évaluation. Donc on ne comprend pas très très bien quel est l'intérêt de rajouter encore des évaluations. Ça c'est un des arguments. Un autre argument est de dire aussi, si c'est uniquement des vues statistiques, tout statisticien sait très bien qu'il peut utiliser un panel représentatif d'écoles pour faire des statistiques. On n'a pas besoin de faire passer sur l'ensemble des écoles de France ces évaluations. Donc ça nous met un peu la puce à l'oreille sur les intentions réelles de ces évaluations. Et on pense que c'est introduire une logique de type compétitive de rapport au savoir dans l'esprit des élèves, et donc d'état de stress, et donc de type préparation à un concours. Il faut voir qu'on fait passer ça à des enfants de CE1, des enfants de CM2, donc ils ont 7, 8 ans, 10, 11 ans. On ne comprend pas très bien dans le rapport au savoir ce que ça va amener de plus que de rajouter ces évaluations. Qui plus est, on a quelques doutes sur la pertinence de la volonté de l'éducation nationale, puisque ces évaluations-là ont été proposées en cours d'année sur une évaluation de fin de parcours. Donc ça nous...
Donc évaluer des élèves sur des compétences qu'ils n'avaient pas encore...
Ils n'avaient pas encore vu pour la plupart. Donc encore que ça sème beaucoup de troubles, quoi. Et on pense aussi, un certain nombre d'entre nous, que c'est aussi, ça participe de la mise en concurrence des écoles. On est dans une logique d'ouverture du grand marché d'éducation et utiliser ces évaluations, alors même s'il n'y a pas de publication, c'est soi-disant... Pour l'instant, c'est relevé anonyme. On peut très bien retrouver assez facilement les données. Mais en publication d'école, avec l'annonce de la fin des secteurs d'école, de scolarisation, on a forcément une logique qui est celle qui est déjà dans les lycées, de publication des résultats et de mise en concurrence des écoles. D'un point de vue du service public, ça nous pose beaucoup de questions, quoi. Donc il y a tous ces aspects-là. On voit que c'est à la fois des problématiques d'ordre pédagogique, de rapport au savoir, qu'est-ce qu'on construit avec les enfants dans les rapports au savoir, et en même temps des problématiques beaucoup plus globales sur la construction de ce qu'on veut comme système éducatif, quoi. Ça, c'est le plan des évaluations nationales, CE1, CM2. En tant que parent, on s'est aussi opposé, quelques parents aussi, aux évaluations sur nos écoles, quoi. L'aide personnalisée, on rentre un peu dans les mêmes problématiques. On stigmatise des enfants qui sont en grande difficulté. On leur rajoute du temps de travail puisqu'ils font des heures sup. Les autres enfants sont sur 24 heures. Eux, on leur colle 26 heures. Des enfants qui sont en difficulté, qui au contraire devraient faire ça sur le temps scolaire, les dégager à certains moments pour qu'ils puissent, avec des enseignants spécialisés, continuer à apprendre. Et dans le même temps, du côté du RASED, du réseau d'aide spécialisée, on supprime des postes. 1500 postes cette année, et encore 1500 parce qu'il y a eu des mouvements d'opposition. Ils avaient annoncé la suppression de 3000 postes. Donc il y a quelque chose qui nous étonne aussi de ce point de vue-là. À la fois sur le plan pédagogique, qu'est-ce que ça rajoute à des enfants comment on va réussir à tenir des enfants qui sont en grande difficulté, qui auraient besoin de moments plus éducatifs, plus ouverts, voire d'être dans des situations plus tranquilles le midi, de temps méridien, de pause plutôt pour souffler et pour pouvoir être à nouveau plus attentif sur le temps plus précis de l'apprentissage de l'après-midi, pour ceux qui l'ont fait l'après-midi, au lieu de leur donner ce temps-là sur le temps de classe, quoi. Donc on a proposé, là sur notre école, et d'autres l'ont fait, des choses de type atelier du midi, quoi. Ce qui serait aussi de l'ordre on proposait qu'il y ait la création d'un CLAE, en fait, d'un centre de loisirs associé à l'école, qui soit un temps éducatif, des jeux de société, du temps calme, ouverture de la bibliothèque. Si je veux aller me reposer, que j'aille me reposer, je serai plus à même une pause méridienne, mais qui soit intelligente là-dessus. Donc on est rentré, on est présent tous les jours avec nos enfants. On constate la présence des enfants qui reviennent plus nombreux que ce que réellement on nous disait d'en prendre et sur une base du volontariat. Donc ce qui montre bien qu'il y a des enfants qui ont envie de venir, d'autres qui ne le souhaitent pas. Et ils viennent parce qu'ils se sentent bien, ils sont plus disponibles l'après-midi pour venir ensuite travailler.
Sur le refus de l'inspection.
Le refus de l'inspection, ça renvoie à des problématiques de modalité d'inspection. On a des inspecteurs dans l'éducation nationale qui ont trois casquettes. Ils ont la casquette du contrôle administratif, ils contrôlent le fonctionnaire, donc ils vérifient qu'on applique bien les programmes, ils vérifient que les enfants viennent bien, l'assiduité, donc contrôle de notre cahier d'absence, quoi, de relevé d'absence. L'obligation scolaire impose aussi, la gratuité scolaire impose une obligation de scolarisation. S'ils sont inscrits, ils doivent être là. Donc on a ça à vérifier, nous, en tant que fonctionnaires. L'inspecteur vérifie aussi, il fait une évaluation. Donc il fait une évaluation de notre pédagogie. Et dans un troisième temps, c'est aussi lui qui est le garant de la formation continue. Donc il organise des animations pédagogiques. Pour moi et pour un certain nombre d'entre nous, ces trois fonctions, elles devraient être séparées. On ne peut pas à la fois contrôler, vérifier l'évaluation au niveau de la pédagogie et organiser les formations. On va avoir du mal à assurer réellement une liberté pédagogique. Ou alors on nous dit clairement, il y a une pédagogie d'État, voilà les outils que vous devez utiliser, voilà le cadre dans lequel vous devez fonctionner. Mais on arrête de nous expliquer que c'est a priori libre de fonctionnement. Donc oui, est-ce qu'on vérifie ensemble? Est-ce qu'on donne davantage de responsabilités aux enseignants plutôt que de les rendre beaux, de plus en plus infantiles en disant vous faites ceci, vous appliquez cela, des techniciens? Non, nous on est des enseignants-chercheurs. De la même manière qu'on est en phase de recherche, on tâtonne, on réessaye et on cherche de l'efficacité là-dessus. Il y a autre chose par rapport au refus d'inspection que je voulais dire, c'est que c'est aussi une manière aussi de remettre en question, de re-questionner l'endroit des commissions disciplinaires. Il faut voir que dans l'éducation nationale, on n'a pas de prud'homme, on n'a pas d'instance prud'homale. Les commissions disciplinaires qui siègent ont 10 représentants du personnel, 10 représentants de l'administration, mais ils n'ont qu'une position consultative. Ça veut dire que même s'il y a un vote en faveur, l'inspecteur d'académie peut sursoir et décider de trancher lui pour faire valoir sa position. Donc ça n'amène à chaque fois que des problématiques de rapport de force. Donc on n'est pas dans une logique de droit, de justice probante là-dessus. Sachant que aussi, la personne qui nous mène en commission disciplinaire est le même qui vient nous juger et qui de toute façon aura tout pouvoir, même contre l'avis de la commission disciplinaire. Ça pose des questions en termes de justice et de liberté qui sont assez inquiétantes. Même dans l'armée, il me semble que c'est un peu plus juste, parce qu'ils font appel à des personnels, à des gradés extérieurs au secteur où ils sont. Ça aussi, c'est des inspecteurs qui sont des locaux, ainsi que les représentants du personnel, c'est des gens locaux, avec toutes les luttes d'influence, etc., qu'on peut imaginer à l'intérieur. Ça pose quand même de grandes questions.
Mais en tant que fonctionnaire, quelles sont vos marges de manœuvre face à des orientations de l'éducation nationale que vous refusez?
En tant que fonctionnaire, on doit obéir aux ordres. C'est tout fonctionnaire. C'est pas que l'éducation nationale, c'est la poste de la même manière. D'où ce mouvement des désobéisseurs. Parce qu'il y a un moment donné où on dit il y a des choses qui sont trop graves, enfin moi ma position, qui sont trop graves, non pas en termes corporatistes, non pas en termes de conditions de travail, mais en termes de ce que ça apporte aux enfants et à une société proche. Les enfants, c'est les futurs adultes à venir là. Et je pense qu'on est sur des positions, c'est pour ça que ça s'appelle le mouvement de résistance pédagogique aussi, en disant il y a un problème d'ordre éducatif fondamental de l'état d'esprit qu'on est en train de créer chez ces enfants là. Et la manière dont on apprend, l'autonomie qu'on supprime, enfin de développement de cette pensée. Quand je dis autonomie, c'est pas uniquement d'être capable de se lever et d'aller prendre son cahier tout seul, c'est une pensée aussi d'être capable d'être critique sur ces choses-là. Et ça, on ne veut plus. Toutes les directives, toutes les impositions nous pressent, nous obligent à rentrer dans des cadres qui sont beaucoup plus proches du taylorisme. On a l'impression d'être au bout d'une chaîne manufacturée avec des boîtes de conserve qu'il faut calibrer.
Donc tous ces refus, ça s'inscrit dans des mouvements à chaque fois collectifs. Pourquoi est-ce que c'est toi qui es menacé aujourd'hui de licenciement ?
Ben, je pense qu'il y a eu un mouvement collectif, mais en même temps, il y a eu quelques griefs personnels. Je pense que la cristallisation autour de l'histoire de l'école La Paix, je pense que voilà, il reste humain aussi ces gens-là, et c'est l'humain qui dépasse leur professionnalisme, à mon avis. Monsieur Yaïch s'est quand même retrouvé le fessier par terre dans une cour d'école. Pour un inspecteur d'académie adjoint, ça montre qu'il y a eu à un moment donné quelques dérapages, visiblement. Bon, voilà, je pense que à la fois ce personnage et Monsieur Trève sentent bien que ça gêne. Donc ils m'en veulent personnellement. Ça dépasse leur cadre professionnel. Après, il y a le fait que je me retrouve un petit peu dans différents endroits. Je suis pas dans une grosse structure syndicale locale. Je suis syndiqué dans une toute petite union syndicale nationale, même si j'ai fait un passage de syndicalisme à Sud l'an dernier. Mais bon, voilà, on a organisé aussi un stage de formation syndicale autour de la hiérarchie, sur les questions de hiérarchie l'année dernière. Bon, je me retrouve en tant que parent dans le collectif Stop Fichage, en étant particulièrement actif aussi à agir contre bas élèves. À l'école de mes enfants, je suis actif avec les parents d'élèves. À chaque fois, c'est collectif. Bon, il se trouve que je me retrouve avec les personnes. Voilà, je pense qu'il utilise ce que je disais tout à l'heure. Il y a les deux axes. Je pense qu'il y a un aspect très, très personnel, je pense, qui les a dérangés à travers l'histoire de la paix. Et puis il y a un profit à faire peur à tout le monde. Vous voyez, même ce personnage, on peut le licencier, quoi.
La commission qui va statuer sur ton cas va se dérouler le 7 juillet. Qu'est-ce qui va se passer d'ici là ?
Eh bien, moi, je prépare une défense avec un certain nombre de défenseurs que je vais nommer. Je rencontre les syndicats qui siègent en commission paritaire, donc qui seront là. Le SNUDIFO disait déjà là qu'il soutiendrait, qu'il irait contre le licenciement. Le SNUIPP sera là cet après-midi. Il s'excusait ce matin, mais il sera là cet après-midi pour voir mon dossier aussi. Et puis, on continue à dénoncer le caractère général de tout ce que j'ai décrit, quoi. Donc, on continue à faire signer une pétition qui est en ligne sur le site soutien-erwan-redon.org. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Ça dépasse complètement ma situation. Ça, c'est une problématique beaucoup plus globale. Et le 23 juin, on appelle à être en grève sur le département et un peu partout en France. Et donc, il y aura un concert de soutien aussi le 30, tout ça dans le cadre du mouvement des désobéisseurs, on continue à affirmer ça.
Il y a des soutiens nationaux ?
La LDH nationale a pris position, il y avait un mandat aujourd'hui de la LDH nationale. J'ai pas au niveau syndical, à part l'UDAS, Sud, la CNT, les autres syndicats se prononcent pas pour l'instant en termes de soutien. Ils disent qu'ils seront là, mais ils... On ne peut pas mettre leur logo pour l'instant sur le site.
Des personnalités du monde de l'éducation ?
Pour l'instant, non. Il y a M. Montagnier qui est mis dans une logique globale de soutien aux désobéisseurs. Je sais que M. Mérieux a signé la pétition. Il n'y a pas d'engagement après très large là-dessus. Ça fait que 10 jours, en fait. On a lancé le site il y a 10 jours. Donc bon, voilà, on continue à médiatiser, on espère bien qu'il va y avoir d'autres engagements.